Énergie Violette, Adeline Courson pour vous accueillir. L'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Namasté, chères auditrices, chers auditeurs, et bienvenue sur Énergie Violette. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le domaine de l'art-thérapie. Quelle en est l'essence, quelle en est la genèse, à qui cela s'adresse-t-il et pour quel mieux-être? C'est Anne Zawi qui travaille dans l'association ABC Action Culturelle et qui nous accompagnera dans cette découverte. Bonjour Anne.
Bonjour Adeline, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
Eh bien c'est moi aussi qui te remercie d'avoir accepté notre invitation et je me réjouis d'aborder avec toi l'art-thérapie et la médiation culturelle. Mais avant ça, on a l'habitude de s'intéresser à la personne qui vient nous présenter tout ça. Et Anne, on aimerait bien connaître ton parcours. Peux-tu nous raconter ton histoire?
Oui, je peux. Eh bien, mon histoire commence à Nantes. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mon bac littéraire là-bas. Et après mon bac, j'ai décidé de partir m'émanciper de mes parents. Et donc, je suis venue faire une licence de littérature et histoire de l'art à Toulouse. À l'Université du Mirail. Et par la suite, donc j'ai validé ma licence, j'ai fait une passerelle pour aller en musicologie. Donc j'ai fait un an de musicologie. Et bien évidemment, tout cela en période Covid, pour rendre la chose un peu plus intéressante. Et malheureusement, je n'ai pas eu les stages habituels qui sont normalement programmés. Moi, je n'ai pas eu la chance de les avoir. Et donc après mes licences, je me suis dit que c'était quand même dommage de ne pas avoir d'expérience dans le milieu dans le milieu culturel, qui est un milieu dans lequel j'ai envie de poursuivre par la suite. Donc j'ai fait un premier service civique dans une galerie d'art, qui a malheureusement dû être écourtée en plein milieu. Donc je ne me suis pas laissée abattre et j'ai refait un deuxième service civique. Donc actuellement, je suis en service civique donc dans l'association ABC Action Culturelle. Et donc je suis, on va dire, chargée de médiation auprès d'artistes qui font du coup des ateliers d'art-thérapie.
D'accord.
Voilà, un petit peu mon parcours.
Est-ce que tu crois que c'est foncièrement le hasard qui t'a conduit là ou il y avait quand même une attirance pour ce genre de pratique?
Alors, c'est vrai que de moi-même, je pense qu'au premier abord, je ne me serais pas forcément tournée vers l'art-thérapie. Mais c'est vrai qu'avec un petit peu de recul, je me rends compte que ça a une certaine logique quand même par rapport à mon vécu et à ma sensibilité artistique, en fait. Donc, voilà.
Alors, l'art-thérapie, est-ce que toi, tu peux nous en donner une définition?
Alors, l'art-thérapie, c'est venir, on va dire, soigner le psychique des gens. Donc, de sa définition grecque, l'âme. Donc, on va venir soigner et aider les gens à aller mieux, à se libérer un petit peu de leurs émotions, que ce soit des fois problèmes physiques ou problèmes du coup psychologiques, et on va venir soigner ça, enfin en tout cas travailler là-dessus grâce à des pratiques artistiques, voilà, en tout genre.
D'accord, on reviendra plus en détail tout à l'heure dans la deuxième partie, mais on pourrait déjà parler de l'association pour laquelle tu travailles, donc l'association ABC Action Culturelle. Alors comment est née cette association?
C'est une très bonne question. Alors, l'association est née... Alors, je n'ai pas toute la genèse précise, mais à la base, l'association est née... donc, c'est la directrice actuelle qui l'a fondée. Donc, elle l'a mis en place à la base pour faire surtout de la production et gestion de paye et du social auprès des artistes et de groupes du spectacle vivant. Donc, elle s'est d'abord lancée là-dedans. Et par la suite, ça lui a tenu à cœur en fait, de développer un petit peu le côté art-thérapie, qui, on ne va pas se mentir, c'est un petit peu une niche actuellement. L'art-thérapie, c'est très compliqué de se développer et de se faire reconnaître en tant qu'art-thérapeute. Donc ça lui tenait à cœur de développer ça, donc avec des artistes avec lesquels elle travaille déjà et d'autres qui sont arrivés un petit peu après. Elle a mis en place des ateliers, pour certains des ateliers hebdomadaires et pour d'autres ce sont plus des ateliers ponctuels dans les centres médico-sociaux par exemple.
Voilà, d'accord.
Un petit peu l'histoire.
Cette association, elle est toulousaine ou on peut la retrouver également à d'autres endroits maintenant ?
C'est une association toulousaine, oui.
D'accord. Et pour l'instant, vous êtes combien à travailler à l'association ?
Alors, en me comptant, oui, nous sommes 4.
D'accord.
Donc voilà, petit effectif.
Il y a des bénévoles également ?
Non, il n'y a pas de bénévoles.
D'accord. Et les intervenants viennent à la prestation ou alors est-ce qu'ils sont là en permanence ?
Alors, en fait, nous, c'est un petit peu particulier parce que comme on a nos locaux, c'est uniquement des bureaux. On n'a pas d'espace pour pratiquer. Donc, nous, on sert vraiment juste de relais. Moi, je suis un petit peu les petites mains qui agissent dans l'ombre pour faire en sorte que les ateliers aient lieu. Donc, c'est plus à la prestation dans le sens où on va venir placer les artistes à des endroits où on a besoin d'eux. Donc, en général, ça va être les centres médico-sociaux qui vont nous contacter avec une demande particulière. Tel enfant a besoin d'un tel suivi ou ce genre de choses. Et ensuite, nous, on va essayer de mettre en place des ateliers pour de trouver un artiste qui correspond d'ailleurs aux besoins des gens qui nous contactent. Et ensuite, on met en place l'atelier. Majoritairement, c'est les centres en question qui trouvent des endroits pour faire leurs ateliers.
Voilà. D'accord. Si je comprends bien, donc, les bénéficiaires à l'association de... des prestations art-thérapie, c'est quel public ?
Alors, dans notre cas à nous, c'est surtout des personnes en situation d'isolement et d'exclusion sociale. Donc, ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des personnes qui sont dans des centres type des MEX, par exemple les enfants qui sont placés en MEX. Il peut y avoir tout simplement aussi des personnes qui en ressentent le besoin, parce qu'il n'y a pas de cas de figure particulier. Enfin, l'art fait du bien majoritairement à tout le monde. Donc voilà, on a plusieurs types de profils et c'est un petit peu varié en fonction de...
C'est ça, donc c'est ouvert à tout le monde, mais vous avez des demandes plus spécifiques pour des publics un petit peu fragilisés, si on peut dire ça comme ça. Ok. Alors, on a parlé un tout petit peu de la définition de l'art-thérapie, mais il y a aussi la médiation culturelle. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, la médiation culturelle, c'est ce que je fais moi, du coup. Pour faire simple, la médiation, c'est faire le lien entre. Donc, moi, je suis là pour faire le lien entre les artistes, nous, l'association qui les gère, le public et les endroits où on va le mettre en place, ou les festivals, ou voilà. Donc, je vais travailler sur, par exemple, mettre en place des petits événements ou des petites choses. Et du coup, c'est moi qui vois avec les artistes quand est-ce qu'on peut le mettre en place, qu'est-ce que eux ils ont, dans quelle dynamique ils ont envie de travailler, voir aussi ce que le public a envie de voir. C'est assez important aussi de pouvoir répondre à cette question-là. Donc voilà, donc mon travail, c'est de faire un petit peu de veille, de regarder ce qui se passe sur Toulouse, en France en général, dans ce milieu-là, et de pouvoir faire des choses pour que l'art-thérapie soit un peu plus remarquée, on va dire, et j'ai pas envie de dire banalisée, parce que c'est pas le terme, mais qu'il soit plus accessible. Parce que majoritairement, j'ai plutôt l'impression que quand on met le mot thérapie, ça a tendance à faire un petit peu peur aux gens. Et en fait, non, en fait, ça fait du bien et c'est pas... Voilà, faut pas avoir peur de se faire du bien, quoi.
Exactement. Alors, médiation, moi, je voulais te demander aussi, parce que je travaille par ailleurs au profit des personnes non-voyantes, et la médiation est très importante pour eux. Exemple, quand ils vont dans un musée, par exemple, pour voir les œuvres, mettons une peinture, voilà. C'est aussi intéressant, c'est pas parce qu'on n'y voit plus qu'on va pas s'intéresser à l'art. Et dans ces cas-là, il y a toujours un médiateur culturel. Et son boulot, en fait, ça va être de décrire l'œuvre.
Les souffleurs d'images.
Oui, alors y a les souffleurs d'images, il y a aussi de la médiation, enfin, peu importe. Hein. Mais moi, ce que j'ai remarqué, et ce que beaucoup de personnes aveugles m'ont dit, c'est que oui, c'est très bien la médiation, mais il y a médiateur et médiateur. J'explique. Une personne qui va décrire une œuvre d'art, un tableau à une personne aveugle, va pouvoir lui dire simplement factuellement, en haut à droite, il y a un soleil, en bas, on voit la mer, un bateau. Et puis, il va pouvoir être très, très précis à situer comme ça des formes dans un tableau. Mais il y a aussi une part de médiation qui peut être inspirée de la personne elle-même, c'est-à-dire son ressenti. Voilà, si c'est un tableau qui est sombre, où il y a très peu de lumière, elle va pouvoir donner ce qu'elle ressent. Par exemple, ce tableau est triste, tiens, ça me rend triste parce que ce tableau est très sombre, etc. Voilà, donc ça, c'est exprimer des sentiments. Une personne non-voyante n'est pas obligée d'accepter ces informations parce que quelquefois, la médiation appartient au médiateur. C'est-à-dire qu'une personne va pouvoir voir la même œuvre et si ce tableau est sombre, elle va pouvoir dire « Oui, on sent qu'il y a de la rage dans ce tableau, ça montre aussi... » ça peut déclencher des attitudes et des ressentis, des émotions complètement différentes en fonction du médiateur. Et pour ça, il y a beaucoup de discussions qui se font, à savoir, est-ce qu'on va trop loin dans la médiation si le médiateur apporte sa touche personnelle dans ses commentaires, ou s'il laisse la personne non-voyante se faire une idée toute seule avec les seuls éléments factuels qu'on lui décrit. Tout ça, c'est une vraie question, c'est intéressant.
Oui, c'est très intéressant.
Est-ce que vous avez aussi ce genre d'approche ou de réflexion chez vous ?
Eh bien... Typiquement, j'ai tendance à dire non, dans le sens où moi, je suis pas en contact direct avec un public. Moi, majoritairement, je suis derrière mon ordi à gérer tout derrière. Mais c'est très intéressant, je trouve. Et ça met aussi en lumière quelque chose, c'est que médiation culturelle, c'est un mot derrière lequel on peut mettre énormément de choses. Typiquement, c'est vrai que ce que font ces personnes, c'est de la médiation culturelle. Ce que je fais, moi, c'en est aussi. Mais c'est, pour moi, deux métiers qui sont totalement différents.
Voilà, c'est ce que je voulais te faire
oui.
dire.
Oui, totalement. Pour moi, c'est le mot médiation culturelle, on peut lui faire dire et, un petit peu tout ce qu'on veut. Et pour en revenir, du coup, à la question des médiateurs qui viennent décrire des tableaux, c'est une question qui est assez particulière parce que, effectivement, la sensibilité artistique est propre à chacun. Et ne serait-ce que même dans la manière dont on décrit une œuvre, même si on la décrit juste en haut, il y a le soleil, en fonction de ce qu'on va dire en premier,
oui,
ça montre
ça
aussi, ça influence.
Ça influence,
ouais. Donc c'est très délicat et c'est un sujet pour lequel je ne suis malheureusement pas assez qualifiée pour
Voilà, c'était pour ajouter une petite touche parce que... Voilà, on favorise l'accessibilité pour tous. Hein.
Oui.
Et deuxième petit exemple, toujours pour mes amis non-voyants, il y a de plus en plus, et heureusement, de films qui sont audio-décrits hein, pour eux. Mais je redonne encore un petit exemple que l'autre jour, une personne aveugle m'a fait remarquer, c'est que... Il écoutait donc un film en audio-description. Donc, en quoi ça consiste l'audio-description ? C'est qu'on regarde le film, mais pendant les moments où ça ne parle pas, à ce moment-là, c'est une personne qui va décrire le contexte. Il fait beau, on voit qu'un tel donne la main à une autre personne. Bon, c'est des choses qui sont uniquement visuelles que l'audio-descripteur va apporter dans ses temps morts de parole du film. Et l'exemple qui m'a été donné, c'est que il y en a qui aiment beaucoup quand c'est très chargé en audio description, quand il y a beaucoup de détails, et d'autres ça les fatigue parce que ça fait trop d'informations en tout. Et l'exemple qui a été donné, c'est que voilà, la personne aveugle me dit, moi par exemple, je regardais un film et on dit voilà, un tel va monter dans sa voiture et il s'en va. Mais dans l'audio-description, ils ont oublié de préciser s'ils montaient dans une deux chevaux ou une Porsche. Mmh. Hein, ça change tout le film.
Ah bah enfin, oui, ça change toute tout la
dimension. C'est pour ça que ces rôles de médiateur, d'audio-descripteur et de tout ce qui va favoriser l'accessibilité aux œuvres et à l'art en particulier, c'est des vraies questions à se poser. C'est des techniques à la fois, mais il y a aussi une part un peu plus personnelle qui peut être ajoutée.
C'est ça. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est très important de développer cet aspect-là, pour rendre voilà, les choses plus inclusives pour tout le monde. Mais il faut prendre en compte qu'en étant des personnes qui pouvons y voir, par exemple, on n'a pas la même... Enfin, pour moi, il faut demander à des personnes qui sont atteintes de handicap comment elles veulent que ce soit.
Exactement.
Parce que nous, on ne le sait pas. Enfin, on peut avoir toutes les bonnes volontés du monde. On peut être très maladroit aussi en voulant bien faire.
Oui.
Et il faut oser poser la question et demander pour pouvoir s'adapter. C'est comme ça que...
C'est ça, pour ça pouvoir personnaliser l'apport qu'on leur donne. Mm. Ouais. Eh ben, on va marquer une courte pause et on se retrouve après pour détailler encore plus l'art thérapie avec Anne. Anne, je t'ai demandé de choisir un morceau musical. Qu'est-ce qu'on va écouter ?
Alors, on va écouter Magnificent Seven de The Clash, qui est un morceau qui me touche particulièrement.
Allez, c'est parti. Merci.
The Clash is currently playing 2 weeks of sold-out concerts at Bonds here in New York. They're about to present a song off their current triple record album, Sandinista. It's called The Magnificent Seven. Please welcome them to the show, The Clash.
Ring, ring, 7 a.m., move yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Knuckle merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. When the man and the crazy chief, one says sun and one says sea. A.M., the F.M., the P.M. too, turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic, so cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag, and the hours jump. Yeah, wait, bye bye.
Sucks. a Fudgy.
Vous êtes toujours sur Énergie Violette, l'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques, et nous retrouvons immédiatement Anne Zaoui, qui exerce dans l'association ABC Action Culturelle et qui nous aide à mieux comprendre l'art-thérapie et la médiation culturelle. Alors Anne, peux-tu nous expliquer en quoi l'art-thérapie répond à un besoin ?
Alors, l'art-thérapie pour moi, répond à un besoin... Pour moi, c'est un besoin humain, vital, je dirais qu'on a tous déjà, d'avoir l'art dans notre quotidien. Parce que même si on ne se rend pas forcément compte, ça fait partie de notre quotidien. Que ce soit, la musique, le sport, la danse, enfin, des pratiques comme ça, ne serait-ce que regarder un film. Il y a plein de choses qui font partie de notre quotidien et qui font qu'il est plus agréable. Et donc pour moi, c'est ça va de soi en fait que l'art peut venir aider à aller mieux. Moi d'ailleurs, ça fait partie aussi de mon quotidien de me soigner grâce à la musique par exemple, ou le dessin ou la peinture. Et donc ça vient travailler sur le psychique pour détendre, pour s'évader, pour réussir des fois à retrouver de la motricité aussi. Donc sur plein de petites choses, ça peut venir travailler. Voilà,
voilà, c'est ça, les bienfaits. Alors, tu dis psychique, le corps. Est-ce que tu as des exemples à nous donner ?
Exemple personnel ou exemple plutôt en rapport avec mon travail, peut-être ?
Oui, ouais. En rapport avec ton travail.
En rapport avec mon travail, je vais prendre par exemple... Disons que nous, on a plein d'ateliers de plein de styles différents. Ça va du hip-hop, on a du théâtre, on a des arts plastiques. On va avoir même un atelier olfactif.
Ah oui ?
Ouais. Par exemple, je vais prendre l'atelier olfactif qui va... Elle a plusieurs sortes d'ateliers. Des fois, ça va être juste de la création de parfums. Et parfois, c'est, elle en a un qui s'appelle, par exemple, l'écriture d'odeur. Et donc elle va venir faire sentir une odeur et grâce à cette odeur nous faire revenir à des souvenirs, à travailler la mémoire, à quelle couleur ça nous fait penser, voilà. Et en fait à travers ça elle va faire écrire une histoire aux personnes et ça peut des fois aider à ressortir des émotions, des choses qui nous ont touchés, qui nous ont émus, bouleversés et ça peut aider à soulager un petit peu tout ça. Voilà, ça c'est un exemple, parce que celui-là, en l'occurrence, atelier olfactif, est un petit peu hors du commun. Enfin, on n'a pas l'habitude de voir
c'est
ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Après, on va avoir par exemple une autre artiste qui va travailler avec la voix et le corps, qui travaille sur du coup un jeu théâtral, mais qui est vraiment là pour retrouver être à l'aise avec sa mobilité, être à l'aise avec les autres aussi, et retrouver sa voix. Donc, c'est ce qu'elle dit. Il y a plein de petits exercices comme ça qui sont faisables pour faire du bien.
Ok. Alors, les intervenants, est-ce que tu peux les citer ?
Oui,
on peut parler
sûr.
D'eux, on peut dire ce qu'ils font, de quelle manière ils abordent le sujet.
Il y en a plusieurs quand même qui font partie de ce cercle-là, on va dire. Donc, y a Manon Fuchs qui, elle travaille avec le théâtre et l'art plastique, pardon. Donc, soit elle va faire des ateliers uniquement théâtre, soit elle va lier le jeu théâtral avec l'art, avec le fait de faire une fresque à la fin de... Voilà, c'est un petit exercice qui est chouette. Nous avons aussi Kako qui fait de la percussion. Nous avons Sandrine qui fait des danses du monde. Nous avons Nous avons Adrien qui fait du hip-hop, Miss Bouillon, comme elle s'appelle, avec les ateliers olfactifs. Nathalie Viudès qui fait des arts plastiques avec les enfants surtout. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai fait le tour.
Alors, ces intervenants, ils travaillent comment? Est-ce qu'ils sont à plein temps? Est-ce qu'ils viennent s'il y a une demande précise? Comment ça se passe un petit peu?
Alors, il y en a certains qui ont des ateliers hebdomadaires. Bon, il faut savoir du coup qu'il y en a certains qui sont à la base artistes et qui se sont développés en art-thérapie un petit peu après. D'autres dans tous les cas, je pense qu'on est artiste avant d'être art-thérapeute, mais il y en a d'autres qui ont passé vraiment une qualification particulière. Et donc, il y en a certains qui ont leurs ateliers hebdomadaires. Et majoritairement, dans la plupart des cas, on peut venir ajouter à leur temps de travail hebdomadaire d'autres ateliers. Et il y en a qui font aussi d'autres travaux à côté, un autre travail à côté, qui ne sont pas uniquement art-thérapeutes.
Voilà. D'accord. Et concernant donc les bénéficiaires, est-ce que tu peux nous dire, qui c'est? Je développe ça pour savoir un petit peu aussi quels seraient les auditeurs qui nous écoutent et qui pourraient dire, ce serait intéressant pour notre structure, par exemple.
Ok. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va avoir des fois les foyers d'accueil. Ça peut être aussi dans les centres pénitentiaires, possiblement. Ça peut être tout simplement des fois dans les quartiers défavorisés. On a par exemple notre artiste Sandrine qui vient travailler avec un groupe de femmes dans un quartier de Toulouse pour les aider à sortir du quartier, à faire plein de choses. Et donc il y a, disons, plein de profils. Si vous êtes une personne aussi qui vous sentez seule, qui vous sentez un petit peu reclus, que vous avez envie de retrouver une activité ou que vous vous sentiez complètement accepté, pareil, vous êtes les bienvenus. Pour le coup, j'ai envie de dire qu'il y a... du moins dans notre association, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit les bienvenus. Donc même si vous vous sentez aller très bien et que vous avez envie d'essayer, vous êtes les bienvenus aussi.
Ouais, ça c'est super. Alors là, tu parles de groupe, de l'art-thérapie pour des groupes. Est-ce que vous en faites aussi en individuel ou est-ce que c'est pas...
Eh bien, ça peut aussi se faire. Justement, cet après-midi, j'ai une psychologue qui est venue à l'association pour me demander si c'était possible de mettre en place des entrevues entre un artiste et des enfants de la MEX, mais de manière individuelle. Et c'est aussi quelque chose qui est faisable, oui. Totalement.
Le public, il n'y a pas d'âge, j'imagine.
Non, je dirais au minimum 5-6 ans.
D'accord.
Au plus jeune. Et après, non, pas spécialement d'âge.
D'accord.
On est là pour accueillir tout le monde. Donc,
qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui est le plus sollicité?
Je dirais majoritairement la danse. C'est ce qui passe le plus avec les jeunes. Le hip-hop, surtout, ça marche bien. Franchement, j'ai tendance à dire que tous, plus ou moins, ils sont tous, réquisitionnés au même stade. Mm-hmm. Peut-être Miss Bouillon avec les ateliers olfactifs, peut-être un peu moins. Elle est très demandée, mais peut-être pas de la même manière. J'ai eu moins de demandes en tout cas sur les foyers d'accueil ou quoi, mais ça va être sur d'autres niveaux. Donc ouais, non, majoritairement ils sont tous plus ou moins demandés, ouais, pareil.
Autant d'activités physiques que d'activités non physiques, l'équilibre est...
Ouais, assez, ouais. Oui, c'est assez équilibré pour le coup.
L'association, elle est aidée pour faire ça ou est-ce que vous vous autofinancez?
Alors, c'est un très bon sujet, parce que ça va dépendre des projets, pour le coup. Mais majoritairement, il faut savoir que l'art-thérapie n'est pas reconnue. Donc, elle n'est pas souvent dans les appels à projets où il y a souvent une petite ligne en bas pour préciser que, sauf art-thérapie. Voilà. Donc, majoritairement, on ne peut pas toujours prétendre à demander des aides. Même si ce serait le bienvenu, bien sûr. Mais voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on essaye de faire en sorte que ce soit plus inclusif pour ouvrir un petit peu et faire en sorte que ça puisse un petit peu prendre de sa superbe, quoi, parce que c'est un milieu qui est chouette, qui est vraiment intéressant, et si on nous donne pas les moyens de fonctionner comme on peut, ça risque de devoir fermer, et ce serait dommage.
Bien sûr, c'est quand même des prestations qui sont un petit peu rémunératrices pour vous, ou alors voilà, comment ça se passe au niveau
alors
de...
Pour moi, non, dans le sens où je suis service civique,
oui.
Donc moi, je suis pas du tout. Moi, c'est, je touche même pas de salaire, je touche une indemnité parce que je suis volontaire au service.
J'avais bien compris, mais voilà. En fait, je voulais savoir si les prestations de l'association
oui.
sont payantes. Voilà.
Ah,
est-ce
oui.
que l'art thérapie est payant?
Oui, totalement.
Okay. D'accord.
Parce que nous, à la base, on produit les artistes.
Mm-hmm.
Donc, on doit leur verser un salaire.
Bien sûr.
Donc, oui, effectivement, les prestations sont payantes.
Voilà, c'est important à considérer,
oui,
parce
totalement.
Que ben, y a des associations qui sont bien subventionnées pour pouvoir
oui.
Voilà, opérer ce genre de service, de prestations. Mais tout a un coût, et c'est bien de le signaler aussi. Voilà, ben, on va remarquer une petite pause musicale, et moi je vous propose d'écouter Time After Time. À tout de suite.
Nothing new. Flashback, one night, almost left behind. Suitcase of memories. Time after, sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you said, and then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Catch you, I'll be waiting. Time after time. Oh, oh, oh. Oh. After my pictures fade and darkness has turned to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. You say, go slow, and I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. If you're lost, you can look, and you really, 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 really find me time after time. Whoa, if you fall, I will catch you. I'll be waiting out time after time. Say, if you're lost, you can look, and you really, 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 really find me. Hey, if you fall, I will catch you. Time after time, how long, how long? Time after time, how long will I love? Time after time, how long, how long? Time after time, how long, how long? Time after time, I'll be loving you.
Énergie Violette, nous sommes toujours en compagnie d'Anne Saoui qui œuvre dans l'art-thérapie au sein de l'association ABC Action Culturelle. Anne, alors nous avons parlé de ton parcours, des services proposés par l'association. De ton expérience, peux-tu nous dire quelles évolutions tu as pu constater chez les personnes ou les accompagnants des personnes qui font appel à ces services ? Alors je sais que tu n'as pas encore beaucoup de retours hein, parce que c'est surtout les intervenants eux-mêmes, les artistes qui sont en contact avec les bénéficiaires, on va dire ça. Mais bon, a priori, ça a l'air d'être encourageant tout de même pour les bénéficiaires puisqu'ils reviennent en tout cas.
C'est ça. Et du coup, comme je t'ai expliqué, c'est encore un sujet qui est en cours d'évolution. Donc nous, à l'association, ça fait donc pas très très longtemps que l'art-thérapie a été mise en place. Ça s'est fait après Covid, du coup ça a été un petit peu aussi compliqué.
Oui, ça c'est récent quand même. Hein,
oui, c'est récent pour le coup.
Cette pratique. Ouais.
Et donc on n'a pas vraiment de grand recul, ouais. On va dire, sur tout ça. Et donc, comme je disais, beaucoup des artistes, enfin la plupart, font des ateliers surtout qui sont ponctuels, donc n'ont pas forcément aussi de suivi long terme avec les bénéficiaires. Mais dans la grande majorité des cas, en tout cas, les retours qu'on a sont très positifs. Et comme vous dites, ils reviennent pour demander d'autres ateliers. En général, c'est plutôt encourageant et.
C'est positif tout ça parce que ça se développe quand même.
C'est ça.
Alors toi, comment tu aimerais voir un peu cette association justement se développer ? Est-ce que tu as des idées ou est-ce qu'il y a des travaux en chantier pour cette année 2024 ?
Du coup, moi j'essaye de mettre en place quelques petits événements pour faire un petit peu connaître notre travail. Donc, c'est pas quelque chose qui a été encore finalisé, mais il y a des beaux projets à venir, comme des ateliers, des journées de découverte avec des ateliers. Donc, la programmation arrivera bientôt. Je fais un petit teasing comme ça.
Une sorte de porte ouverte que vous allez organiser.
Alors du coup, pas tout à fait porte ouverte, mais en gros, ça va être mis en place avec Ville pour tous.
Oui.
Et donc ça va être une après-midi, du coup on va avoir 5 de nos artistes qui vont proposer des ateliers, et ça va permettre un petit peu de découvrir leur univers, de pouvoir venir un petit peu discuter avec eux, tout ça. Et du coup je reprécise que ce sont des ateliers qui sont payants. Malheureusement, si on pouvait les faire gratuitement, on les ferait. Et donc voilà, il y a par exemple cet événement-là, disons que c'est celui qui est le plus en phase d'être finalisé. Et il y en a d'autres que j'essaye de mettre en place, parce que c'est vrai que c'est pas évident de se faire un nom dans le milieu de base culturel en général. Et surtout quand on est une petite asso pour faire un petit coucou, on est là, venez voir ce qu'on fait. Du coup, voilà, on essaye de mettre nos petites graines un petit peu partout.
Alors, vous allez essayer de mettre en place quelque chose pour Ville pour tous.
Oui.
On va parler un petit peu de Ville pour tous parce que les auditeurs ne connaissent pas.
Oui.
Alors, ça se passe à Toulouse. Mmh. Initialement, ça s'appelait Ville et Handicap. Mmh. Et ça faisait référence aux 2 semaines européennes sur le handicap. Mmh. qui avait lieu généralement au mois de novembre. Hein. Et la ville de Toulouse demandait à toutes les associations en lien avec le handicap s'ils étaient intéressés pour développer un événement, faire venir du monde, faire connaître leurs activités. Et ça s'est un peu transformé en Ville pour tous pour plusieurs raisons, parce que d'une part, sur ces deux semaines du handicap, eh ben, on avait un programme trop chargé, des choses très intéressantes, mais on peut pas sortir tous les soirs, tous les après-midi, tous les matins pour aller faire des animations. C'était trop concentré, en fait, comme événement. Et la ville de Toulouse a dit, ben, voilà, faudrait que ce soit étalé sur l'année. Hein, pour que bah, on soit pas gavé d'animation sur 15 jours, mais qu'on puisse avoir le temps d'aller voir un peu tout ce qui est intéressant et accessible à tous les publics, puisque c'est ce qui voilà, c'est un peu le but de l'opération, hein, c'est que ce soit accessible à tous les handicaps. Et voilà, et pourquoi pour tous? Parce que ça s'est agrandi aux villes autour de Toulouse, toute l'agglomération toulousaine métropole est en train de s'engager dans cette démarche également. Alors, vous avez choisi à peu près quelle période ou si tu as la date exacte, on peut aussi la donner à nos auditeurs pour qu'ils viennent s'intéresser à l'art-thérapie.
Alors, j'ai la date, ce sera le 29 mai.
Ah, voilà. Mais très bien.
C'est tout ce que je peux dire pour l'instant, parce qu'il y a d'autres petites choses à finaliser. Donc, le programme arrivera bientôt. N'hésitez pas à venir le regarder sur le site d'ABC. Il y aura un petit peu plus d'informations. Et sur le programme officiel de Ville pour
Alors,
tous.
Alors, sur le site d'ABC, Action culturelle.
Action culturelle, oui,
voilà, parce que sinon, on tombe sur d'autres choses. Oui, très bien. Éventuellement aussi, si on a besoin de contacter l'association ou toi... À part le site internet, quelles sont les coordonnées? Vas-y.
Alors, à l'adresse mail mediation@abcactionculturelle.com. Donc ça, c'est l'adresse mail pour me contacter directement. Et alors, le numéro de téléphone que je ne connais pas par cœur. Du coup, j'ai pas pensé à le prendre.
Eh bien, du coup, on le trouve sur le site internet.
Ouais. Oui, sur le site Action internet. Ouais, exactement. Il y a tous les contacts et chacun de mes collègues a son adresse mail attitrée. Donc, voilà.
En tout cas, c'est une association dynamique comme toi. Ça fait plaisir. Alors, on va revenir un peu plus à toi. Voilà. Est-ce que tu as des projets plus personnels concernant la suite de ton service civique?
Oui. Alors, il y a quelques jours, j'ai eu un petit peu plus de précisions sur ce que j'allais faire de mon année 2024-2025. J'ai postulé à une école à l'IESA, donc c'est l'école internationale de culture et art à Paris, pour un master en management de projets musicaux. Wow. Et donc voilà, j'ai été prise, donc très contente, merci beaucoup. Et donc maintenant je cherche une alternance, enfin je vais commencer à chercher une alternance dans le milieu du coup de la musique à Paris pour essayer de continuer dans le milieu culturel.
Voilà, alors si les auditeurs nous écoutent, et on sait qu'ils nous écoutent également dans d'autres pays, d'autres régions bien sûr, oui. C'est un appel que tu peux lancer. pour une alternance et que voilà, les auditeurs nous contactent s'ils ont des propositions à faire, qu'on te transmettra.
Beaucoup.
Bon, c'est parfait tout ça. Alors, est-ce que avant de nous quitter, tu aurais des messages, des conseils à donner à nos auditeurs?
Alors déjà un petit conseil par rapport à l'art-thérapie, surtout
oui.
N'en ayez pas peur. Soyez curieux, n'hésitez pas à venir regarder si vous avez des structures qui proposent de l'art-thérapie à côté de chez vous. Ça fait du bien. C'est juste un moment de partage, c'est un moment d'écoute, c'est un moment avec soi, mais c'est un moment aussi avec les autres. Et savoir apprécier un moment partagé, je trouve que c'est quand même assez chouette. Et ça fait du bien, surtout dans la conjoncture actuelle des choses. C'est assez important. Et sinon, de manière générale, sans parler d'art-thérapie, juste prenez le temps de vous intéresser à des pratiques artistiques ou culturelles, pareil, ça fait du bien, c'est ressourçant. Et voilà, pour moi, ça fait partie de notre vie.
Je suis d'accord avec toi, la culture pour tous. Et
c'est ça.
Et c'est un très beau message. Eh bien, maintenant, l'émission touche à sa fin. Je te remercie infiniment, Anne. C'était Énergie Violette, donc une émission d'Adeline Coursan avec à la technique Léo Touroux. Merci Léo. Vous retrouverez le podcast de cette émission ainsi que toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie. Namasté à vous les amis et prenez soin de vous.